Écoutez bien.
Ah, ils sont forts quand même.
Ozone. O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre,
le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
C'est un monsieur qui rentre chez lui ce soir et qui dit à sa femme, chérie, il faut que je t'annonce, il s'est ouvert un nouveau magasin donc à Évreux, c'est superbe. On vend des préservatifs, mais à tous les goûts, n'importe quoi. Alors, elle dit, ah bon ? Ah oui, aussi bien cerise que fraise, que saucisson. Alors, je me suis laissé faire, j'ai pris un échange de tout. Donc, chorizo, fraise, framboise. Et donc, il lui dit, on va essayer ce soir pour voir si tu reconnais. Alors, donc, le soir arrive, donc, dans l'intimité de la chambre. Donc, le monsieur, dit à sa femme, bon, on va essayer. Alors, sa femme essaie, elle dit au monsieur, ça, je reconnais, c'est le record. Et le monsieur lui dit, attends, j'ai pas encore commencé.
Pardon. Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer par une petite introduction. Balance, kilo, arnaque, gramme, milligramme, yo-yo, complexe, santé, bourrelet, grossophobie, laisser-aller, mode, obésité, IMC, corps, bouton, beauté, rondeur, boulimie, anorexie, gras, graisse, liposuction, cure thermale, bypass, sleeve, anneau gastrique, éducation alimentaire, malbouffe, excès, fête, repas, culpabilité, rejet, addiction, discrimination, grande taille, mannequin. Vous l'aurez compris, en cette nouvelle année de l'an de grâce 2020, nous allons aborder la vie sous un autre angle. Nous allons nous intéresser à la vie en gros. Grosso modo, nous allons tenter d'apporter un peu de rondeur et de générosité dans notre société a priori légèrement grossophobe. Car en effet, malgré notre bonne volonté, nous ne sommes pas parvenus à repérer une personne obèse défilant lors de la Fashion Week. Comme si pour être beau, il fallait forcément rester à l'état de brindille. Nos chaînes de télévision ne regorgent pas non plus de personnes obèses où sont passés les Carlos, les Miss Roussos, Casimir, Obélix et d'autres personnes rondes et joviales. Alors, intéressons-nous à ce que c'est la vie en gros. Pour ce faire, nous recevrons Grégory, diététicien. Au sommaire aujourd'hui, des copieux textes de l'atelier écriture du pain des mots. Du pain des mots. Une petite cuisine riche en calories, une interview grandement menée, des musiques roboratives, un micro-trottoir, hélas absent, une minute du pôle haute en forme et pleine d'espoir, et des extraits vidéo.
Manger est nécessaire, vital, et peut même être un plaisir coupable bien sûr, c'est pas bien, bouh. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et la viande, c'est mal. C'est des animaux maltraités. Imaginez un cheval au galop dans les plaines de l'Arizona et bah ça y est, j'ai faim. Un bon rôti de cheval. Mais soyons véganes, sauvons la planète. Pour votre santé, faites de l'exercice physique. Le poisson, ça c'est bien. Ça c'est bon. Faut pas faire bobo aux vaches, mais les poissons, on s'en fout. On peut les laisser agoniser, ça c'est pas grave. Allez, ne mangez ni trop gras, ni trop salé. Cuisiner, digérer, bah c'est bien trop long. Allez vite, ma dose d'anxiolytique, mon assiette de spaghettis. Et puis c'est tellement drôle de se moquer des gros. Les repas de famille, bah j'étais la poubelle de table, celui qui finit tous les restes. Ça faisait tellement rire tout le monde. Manger équilibré, bouger. Je me pose quand même des questions... Alors, bien évidemment, tout est de ma faute. Je suis une grosse feignasse de parasite qui se laisse aller, ou quand même je fais aucun effort, mais je me pose quand même une toute petite question. Si mon entourage était juste un peu moins con, est-ce que je mangerais pas un peu moins? D'écouter Fats Domino, The Fat Man.
Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui.
Et bien maintenant, nous allons passer à l'interview de ce mois-ci, dont le sujet est la grosseur. Pour répondre à ce sujet, nous recevons Grégory Diététicien. Grégory, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre diététicien et nutritionniste?
Le point commun était déjà de s'occuper de la nutrition. C'est-à-dire s'intéresser à notre alimentation, mais également à notre activité physique. Pour ce qui est des différences, nous sommes sur deux formations différentes, deux fonctions différentes, sachant que le terme de nutritionniste ne doit jamais s'employer seul, il doit toujours être accolé au métier, exemple médecin nutritionniste et diététicien nutritionniste. Pratico-pratique, un médecin nutritionniste, on est sur une formation médicale de base, associé à une formation complémentaire sur un DU spécialisé en nutrition, en diabétologie ou en endocrinologie par exemple. Le médecin nutritionniste a la possibilité de prescrire des examens, des analyses, des médicaments. Il y a un remboursement par la sécurité sociale également de l'acte réalisé par le médecin nutritionniste. Ce qui est bien différent dans le cadre des diététiciens nutritionnistes, avec une formation différente, qui est une formation diplômante en 2 ans, avec 2 diplômes à ce jour existants. Soit la filière BTS diététique ou également la filière DUT génie biologique option diététique qui permettent d'accéder à la même profession mais deux formations pourtant différentes. Différence avec le médecin nutritionniste, on n'a pas le droit de prescrire, Donc on doit effectivement travailler sur prescription médicale. Dans le droit de prescription, et ça implique également dans la reconnaissance des actes, il n'y a pas de remboursement des actes pratiqués par les diététiciens nutritionnistes en libéral. Certaines mutuelles commencent à rembourser, mais c'est au cas par cas, il faut bien se renseigner à ce sujet.
Alors, on va rester dans les définitions et je vais demander, c'est quoi être gros ?
Alors, être gros, d'un point de vue médical, on va parler d'excès de masse grasse. L'OMS définit sur des critères de santé. En l'occurrence, on va parler d'indice de masse corporelle. Vous avez déjà peut-être entendu parler autour de vous. Cet indice de masse corporelle, il correspond à notre corpulence. On l'obtient en divisant notre poids au kilo, en le divisant par notre taille en mètres au carré. Cela nous donne un indice. Et on va parler d'obésité. Quand vous évoquez le nom gros, nous on y met l'obésité. Et cet IMC va correspondre à un IMC supérieur à 30. On va parler d'obésité. L'obésité aussi, depuis peu, peut se traduire aussi par une obésité de type abdominal, androïde, qui là s'obtient par la mesure de notre tour de taille. Par exemple, chez les hommes, ça va correspondre à un tour de taille supérieur à 94 cm. Chez les femmes, c'est un tour de taille supérieur à 88 cm. Deux critères définissant l'obésité.
Oui, et entre autres, quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent ?
Alors, en premier lieu, sur les demandes des prescriptions des personnes qui viennent consulter, on retrouve effectivement les soucis de surpoids et d'obésité. C'est un fléau que l'on retrouve dans la population générale, à savoir à hauteur de 17% de la population générale, hein, ça représente 8 millions de personnes en France, et qui représente effectivement le principal cas de demande de prise en charge. Associé à l'obésité, je peux compléter sur les autres demandes, le diabète de type 2, mais également à l'autre extrémité, on retrouve aussi ce qui va concerner la malnutrition, la dénutrition, notamment chez les personnes âgées.
Alors la dénutrition, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des problèmes d'anorexie par exemple qui pourraient être...
C'est une forme effectivement, l'anorexie mentale se caractérise effectivement par une maigreur importante, sévère et correspond à un état de dénutrition bien évidemment.
Donc justement, mis à part effectivement l'anorexie, quels sont les risques principaux pour la santé ?
Les pathologies les plus fréquentes que l'on trouve associées à l'obésité, les conséquences, concernent en premier lieu les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, nous avons évoqué, mais également différents types de cancers, les syndromes d'apnée du sommeil, l'arthrose, l'hypertension artérielle. Et une pathologie qui s'accumule, on va parler de comorbidité associée à l'obésité, et qui ont pour conséquence de réduire considérablement notre espérance de vie. On peut estimer à 3 à 18 ans de réduction d'espérance de vie associée à une obésité, selon son degré de gravité.
Alors, et quelles sont les répercussions psychologiques ?
Sur les répercussions, elles sont plusieurs. On peut citer parmi elles la mésestime de soi, la dévalorisation, impact psychologique sur aussi l'apparition de troubles dépressifs, de troubles liés au stress, à l'angoisse, à l'anxiété. On va évoquer aussi ce qui concerne la stigmatisation de cette catégorie. Une perturbation aussi pour ces personnes, une perturbation de l'image de leur corps et un sentiment également d'exclusion et d'incompréhension.
Et alors je me demande si c'est plus psychologique, est-ce que... En tant que diététicien, ce que vous pouvez faire, du coup ?
Alors, seul, on ne peut pas faire grand-chose. C'est une pathologie multifactorielle, ne se résume pas simplement à ce que l'on mange. Il y a bien d'autres éléments et beaucoup d'autres facteurs qui prédisposent, qui favorisent effectivement une situation d'obésité. Et ce serait prétentieux d'avoir cette volonté de pouvoir résoudre tout seul. Donc, dans ce cadre de prise en charge, il convient effectivement de travailler de manière pluridisciplinaire avec d'autres professionnels, chacun dans son domaine de compétences, mais en complémentarité autour effectivement de cette problématique.
Je voulais vous demander, vous parliez de multifacteurs. Alors, pour faire simple, un peu pourquoi on mange trop ?
Pourquoi on mange trop ? Ça, c'est s'interroger sur la fonction effectivement de pourquoi je mange.
Oui. Hein.
On se mange pour se nourrir, pour la fonction de plaisir. Il y a plusieurs fonctions associées à l'acte de se nourrir, de manger. Hein. Le lien social, le partage, le plaisir, beaucoup d'autres facteurs, effectivement. Et c'est des questions qui méritent, effectivement, d'être accompagnées lorsque l'on souhaite, effectivement, soigner une obésité et d'être partagées avec des professionnels formés dans ces domaines.
Et qu'y a-t-il comme répercussion sociale à propos de l'obésité quand on est obèse
Alors, de façon générale, ce qu'on constate, effectivement, c'est une situation de handicap qui va s'accumuler et qui peut être source d'isolement social, professionnel, familial. Ça se traduit, par exemple, par des arrêts de travail. Ça peut être aussi une difficulté à l'embauche, une difficulté aussi à la promotion professionnelle, une altération de la qualité de vie. Je peux citer aussi... Un rejet, une discrimination sociale, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant.
Et je m'excuse, excusez-moi, quand on a anorexie, il y a aussi la répercussion sociale
Bien évidemment, on est sur deux types de ce qu'on appelait les troubles des conduites alimentaires qui peuvent se traduire à l'extrême hein, sur l'obésité ou sur effectivement la dénutrition. Le point commun, c'est effectivement entre guillemets, un trouble des conduites alimentaires. La façon dont on s'alimente, notre rapport avec l'alimentation et l'extérieur, notre environnement, les autres personnes.
Alors, Rémi l'a évoqué dans l'introduction de l'émission, on est dans une période, on va dire, un peu grossophobe. Parce que je me souviens que plus jeune, on voyait des Carlos ou des gros Quick. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée pourquoi c'est ce changement d'image, on va dire, qui ne me semble pas si vieux que ça?
Il y a un certain dictat, effectivement, par nos modes de consommation, l'évolution de la société. On peut citer tout ce qui concerne le milieu de la mode, la publicité, hein, qui véhicule effectivement des images, des représentations de ce qui est attendu dans un individu standard, de ce qu'on nous vend, entre guillemets, comme image. Et qui sont effectivement délétères dans tous les cas, et qui faussent effectivement les représentations, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, les enfants et les adultes.
Je continue toujours pour la grosseur et l'obésité. Selon vous, peut-on être gros et heureux ?
Ah, la réponse peut paraître assez complexe, mais ce serait simpliste que de résumer finalement le bonheur à simplement son état de santé. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on peut être heureux et gros, hein, c'est pour reprendre votre appellation. On est après dans des facteurs de qu'est-ce qui nous rend individuellement heureux dans notre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir prendre en compte et travailler, discuter avec la personne pour voilà, mettre des mots et décentraliser, déculpabiliser, ne pas tout résumer sur un problème de poids. Il y a d'autres facteurs à côté et effectivement des choses qui dans notre quotidien nous rendent heureux et de maintenir cette qualité de vie pour favoriser effectivement une meilleure réussite et éviter de mettre un échec.
Alors, je prends la suite de Rémi. Est-ce que, du coup, le régime est toujours la bonne solution? Puisqu'on sait qu'on peut aller de régime en régime sans forcément grande efficacité.
Voilà, sans contexte, hein, je dirais que le régime n'est jamais la bonne solution. Lorsqu'on évoque le mot régime, on est sur des conduites alimentaires de type restrictif, bien éloignées des habitudes de chacun. Hein, à travers notre façon de nous alimenter, c'est une construction dès le plus jeune âge, hein, rapport avec l'alimentation, l'exposition aux aliments, nos goûts, les différents sens qui sont mis en avant, la vue, l'odorat, l'ouïe, tous ces sens-là interviennent dans nos façons de nous alimenter, et on s'est construit à travers ces différents sens.
Oui, on en a un petit peu discuté, mais pour quelles raisons peut-on devenir addict à la nourriture ?
Alors d'un point de vue médical, là aussi, il n'y a pas d'addiction à la nourriture. Hein, ce serait quelque chose de familier que de parler d'addiction au sucre. Il y a une corrélation, des ressemblances avec une addiction entre l'ingestion effectivement d'un produit sucré et le plaisir qu'on en ressent. Mais au sens médical, ce n'est pas reconnu comme une addiction.
Et alors, est-ce qu'il y a... Est-ce que l'obésité est répartie dans toutes les classes sociales? Est-ce qu'il y a certaines branches professionnelles ou certaines catégories de personnes plus touchées que d'autres?
Alors oui, l'obésité est clairement en relation avec le niveau socio-économique. Plus les revenus sont bas, plus le niveau d'études, de formation est bas, plus les personnes sont sujettes à être touchées par l'obésité. On le constate dès le plus jeune âge, dès 6 ans, les enfants issus de classes ouvrières sont 4 fois plus touchés par l'obésité que les enfants de classes de cadres.
Et alors, vous pensez que c'est peut-être question d'argent, c'est cher de bien manger, ou une question d'éducation? Alors,
sur le pourquoi, les deux, dans le sens où effectivement les familles les plus démunies ont moins d'accès à l'information, à l'éducation, moins d'accès aussi, effectivement, vous le dites parfaitement, aux revenus modestes, qui nous privent effectivement d'une certaine sélection de choix d'aliments plus protecteurs pour notre santé, qui sont aussi en corrélation avec, pour certains, effectivement, un prix plus cher, du coup un manque d'accessibilité sur ces catégories d'aliments qui seraient à mettre en avant. Et puis, on parle d'alimentation, n'oublions pas aussi, effectivement, l'accès à l'activité physique. Personnes plus démunies ont également moins de possibilités de s'inscrire dans un club de sport. Ça, c'est une réalité socio-économique. Et en termes de territoire, nous constatons aussi des inégalités de territoire selon le lieu d'habitation. Principalement sur les territoires, les collectivités d'outre-mer par rapport à l'Hexagone, mais même au sein de l'Hexagone, nous retrouvons un gradient nord-sud, le nord, la Normandie, l'est sont des régions beaucoup plus touchées que dans le sud. Donc là, le lieu d'habitation, notre localisation, en lien effectivement à l'accès aux gymnases, aux piscines, aux différentes activités sportives, vont aussi être un facteur favorisant et on constate des inégalités territoriales. Ouais.
Et alors, je ne sais pas si on peut élargir au monde entier un peu. Disiez en France, on est à 17% d'obésité chez les enfants, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Et alors un peu...
Chez les adultes. Hein.
Chez les adultes, d'accord. Donc je l'ai dit une bêtise. Donc je ne sais pas s'il y a un classement mondial, mais par rapport à d'autres pays, est-ce que c'est plutôt un problème de pays riches ou est-ce que...
Non, ça touche effectivement plutôt les pays riches, les pays en voie de développement. Hein, on voit des pays selon les cultures, hein, les pays asiatiques, en Chine, qui avant n'étaient pas touchés par ces pays-là. La mondialisation, effectivement, se transporte sur la santé et sur l'obésité. Hein. Pour rester sur effectivement l'exemple de la Chine, avec la culture de l'enfant unique, a amené effectivement des comportements et une modification de leurs habitudes de vie. Et on voit apparaître effectivement de plus en plus d'obésité dans ces pays émergents économiquement.
Alors, bon, je ne sais pas si vous avez quelques conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait peut-être perdre un peu de poids. Parce que je l'ai dit, bon, les régimes, alors je ne vais pas parler peut-être de Ducan, le docteur Ducan, je crois.
Oui, tout à fait. Oui.
Par exemple, ou certains régimes qui me semblaient très déséquilibrés quand même, parfois.
Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message. Lorsqu'on parle le mot régime, on s'est souvent associé effectivement une restriction et bien souvent, on va créer un autre déséquilibre. On ne va pas résoudre le problème, on va plutôt en créer d'autres et rentrer dans un cercle vicieux plutôt négatif avec l'effet qu'on connaît, l'effet le yo-yo. Et donc, d'aller d'échec en échec et ce qui réduit, plus on subit effectivement ce phénomène de yo-yo, d'échec, plus on rentre dans une spirale négative et on amoindrit nos réussites effectivement de perdre du poids, de limiter notre excès pondéral. Donc effectivement, attention au régime avant l'été pour rentrer dans le bikini, ça peut être une première porte effectivement à des troubles plus importants ultérieurs.
Non, je vous cède la parole, Stéphane.
C'est gentil, alors... Bah, je vais vous remercier. Je rappelle qu'on recevait Grégory, qui est diététicien. Ou peut-être, pour conclure, quelqu'un qui, je l'ai dit, soit perdre du poids ou soit qui se sentirait pas bien. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour, prendre contact avec un professionnel ou...
C'est ça, c'est de casser l'isolement, trouver effectivement le bon interlocuteur. Dans les différents parcours de santé qui nous sont accessibles et ne pas le garder pour soi et pouvoir en parler et ça c'est déjà une première étape hein. C'est quelque chose qui demande de la motivation et travailler sur l'acceptation de soi et c'est un travail qui demande beaucoup de temps de motivation.
Bien, alors je le rappelle encore une fois, nous recevions Grégory qui est diététicien. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Écoutez Fatboy Slim qui chantait Right Here, Right Now.
Maman, on peut s'en aller s'il te plaît?
Tu dois voir le docteur des yeux, mon chéri.
Mais j'aime pas ce docteur, il dit que je suis gros, il arrête pas de se moquer de moi.
Tu n'es pas gros, mon trésor, tu as une ossature lourde.
Il sait qu'est-ce que je lui ai dit, mais il fait rien qu'à continuer.
Bonjour, cher auditeur. Aujourd'hui, à la petite cuisine de...
Ozone Libre?
Ozone Libre. Une galette des rois à la frangipane. Alors, cette recette est pour 6 personnes. Il nous faut comme ingrédients 2 pâtes feuilletées, 140 g de poudre d'amande, 100 g de sucre fin, 2 œufs, 75 g de beurre mou, un jaune d'œuf et une fève. Une grosse fève en or, c'est préférable. Pour que ça porte sa semaine de la joie et de la bonne humeur de recevoir la fève et de se casser les dents en recevant la fève. Bon, alors, nous allons préparer ça. Il faut environ 30 minutes pour le préparer, hein. Avec environ une cuisson de 20 minutes et une préparation de 10 minutes à peu près. Donc, placez une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Nous allons placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Alors, déjà, je déballons la pâte feuilletée pour la mettre dans un moule à tarte. La pâte feuilletée et dans le moule à tarte maintenant. Maintenant, il faut piquer la pâte avec une fourchette. Pendant que dans un saladier, nous allons mélanger la poudre d'amande, le sucre, les deux œufs et le beurre mou. Donc, piquer, donc il faut piquer la pâte feuilletée. Piquer la pâte avec une fourchette. En mieux, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, donc on fait 6. Il faut donc mélanger la poudre d'amande. Nous avons dit 140 g de poudre d'amande.
J'ai versé. Vous trouvez en vente dans tous les commerces. Donc j'ai mis 125 g de poudre d'amande et je vais rajouter 15 g approximativement. Mais en fait, il faut bien mesurer les 140 g. Voilà. Les 140 g sont mesurés. Ensuite, il faut mettre le sucre. Il nous faut 100 g de sucre fin. 100 g de sucre fin. Ce qui nous fait un sucre fin. 100 g de sucre fin. Ensuite, il nous faut les 2 œufs et le beurre mou. Donc, on casse les 2 œufs. On va incorporer les 2 œufs en faisant attention qu'il n'y ait pas de coquille. Toujours sans coquille. De préférence avec des coquilles fraîches. Mais sans coquille, c'est préférable. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit peu de coquille, mais je ne suis pas sûr. J'ai demandé
à mon ami. T'as vu, il y avait 2 jaunes dans celui-ci.
Oui.
T'as vu, c'était, parce que ça, c'était le premier.
C'était ça.
Incroyable.
Ça arrive.
C'était hein. Des jumeaux.
Ça arrive. Bon, donc, oui, comme disait Timothée, il faut que je verse mes 2 œufs, c'est ça? Et que j'ai battu.
Tu peux les battre avant, comme tu veux.
Un petit peu avant. Et le comble, faut-il dire ce que nous avons eu à propos des œufs?
C'est dans la boîte.
Le comble, c'est que en cassant un œuf, nous avons obtenu 3 jaunes ou 2 jaunes d'œufs. Ce qui arrive est effectivement un coup sur 2. Et je ne sais pas si on gagne beaucoup ou si on gagne quelque chose une fois qu'on a 2 jaunes d'œufs dans un œuf. Mais enfin, c'est quand même incroyable, mais.
C'est une victoire.
Vrai. Et c'est incroyable, mais. Mais.
Vrai.
Et la pâte, la poudre d'amande, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou. Nous avons rajouté le beurre mou. Donc je répète, le beurre, il y avait 75 g de beurre mou, 2 œufs, 100 g de sucre fin et 140 g de poudre d'amande. Et là, je mélange, en fait, c'est pour faire la garniture et la frangipane, si vous ne prenez pas.
Ça devrait le faire.
D'accord. Donc voilà, ça a duré 2 minutes 27 secondes et 3 dixièmes. Maintenant, je verse la pâte obtenue dans le moule à tarte et j'y vais y cacher la fève. Et donc là, garnissons la. Enfin, nous étalons le mélange ainsi obtenu sur la pâte feuilletée. Et nous allons, sitôt dit, sitôt fait, une fois que Timothée aura fini de mettre la pâte obtenue dans le moule à tarte, nous allons y cacher la fève. Nous allons y cacher la fève, on va en cacher une douzaine pour tous la voir. Comme ça, tout le monde en rachètera vite et ce sera bon. Mais en fait, nous arrivons presque à la fin. Et en fait, c'est vrai, nous arrivons à la fin de la galette des rois. Jeudi, nous serons le jour de la fin de la galette des rois. Cela est prédestiné.
On attaquera les crêpes.
On attaquera les crêpes. Voilà ce que j'attendais.
Personne pour le mois prochain. Les crêpes.
Nous étalons la pâte de la pâte feuilletée, tout dans la pâte feuilletée, sur la pâte feuilletée, pardon. Et après y avoir caché la fève, nous recouvrirons avec la deuxième pâte feuilletée. En collant bien les bords, avec de la colle. De la colle. Oui.
Non, sans colle,
avec les jeunes d'œufs. Je suis de Timothée, raison, ce n'est pas avec de la colle que nous collons bien les bords. Les cloches sonnent, nous sommes.
Et alors, à la fin,
il faut badigeonner avec le jeune d'œuf pour que ça. Comment dire. Pour ça, comment dire,
ça
pour ça reluise.
Oui.
Ça va être une omelette par-dessus la galette.
Et ensuite, il faudra enfourner pendant 20-30 minutes à 200 degrés ou thermostat 6-7. Vérifiez régulièrement la cuisson tout de même.
Et maintenant, un petit texte du point des mots de Parami. Ce sont des haïkus. Un gros a grossi, encore un peu un pour McDo, aficionados. Moi, comme un clou, je respire un peu fort, je m'éclate fou. Mais pourtant, si peu, absorbé, tout travaillant, je mange pâte. Comme chinoise avec coronavirus, d'en bas me toise.
Je préfère manger à la cantine.
C'est Gym Kilo, une petite émission qui va t'aider à regagner tous les gros kilos superflus que tu as eu tant de mal à perdre en mangeant de l'eau toute la semaine. Gym Kilo, Gym Kilo, tu fais de la gym et tu prends des kilos. Today, nous allons travailler les membres supérieurs du haut du corps. Fini les bras fins et féminins. Grâce à moi, tu auras les bras comme les cuisses de Carlos. Alors, pour cela, il te suffit de faire des pompes. Alors, pour faire des pompes, tu as besoin de deux bras. Tu as besoin également d'un bon couscous enrichi en sucre pour te suralimenter entre chaque effort. Gym Kilo, Gym Kilo, tu manges du couscous et des bourrelettes poussent. Au travail, mesdames. Nanana, nanana, nanana. Et one. Un coup. Un coup. Attention, tous les filles pensent bien à se réhydrater la glace musculaire avec un couche de gras dans la bouche de la langue.
Et maintenant, un texte pour la rubrique Abrac, tiré d'un extrait trouvé sur Internet. Cher médecin, je suis obèse et je voulais que tu m'aides, pas que tu m'humilies. Fanny avait appelé SOS médecin pour un problème de dos. Et quand il est arrivé chez elle, rien ne s'est passé comme prévu. Il s'est concentré sur l'obésité de Fanny. Il l'a culpabilisée sans écouter ni porter attention à ses explications. Témoignage. Hier soir, je me suis fait mal au dos au travail. Ce matin, je me suis levé avec le même mal de dos. À 6 heures, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit à mon conjoint, « Je sens que je ne pourrai pas aller au travail. » Ce à quoi il a répondu, « Tu sais, c'est la santé avant tout. » À 8 heures pétantes, j'ai appelé mon médecin généraliste qui malheureusement ne pouvait pas me prendre un rendez-vous aujourd'hui. Alors j'ai appelé SOS médecin, comme me l'a suggéré la secrétaire. « Un médecin arrivera dans les 2 heures qui suivent cet appel, madame. » « Ok, j'attends, il est 9h. »
13h passées, le médecin arrive. Tout juste un bonjour, pas d'excuse pour le retard. L'air harassé, je lui propose de s'asseoir. Il répond donc avec la négative, hyper speed. Il me dit relativement mal à l'aise. Je lui dis que j'ai mal au dos. Il lève donc mon t-shirt. Et vous avez mal quand j'appuie ici? Je réponds oui. J'essaie donc de lui dire que de mes propres cervicales me font mal et qu'elles aussi sont, mais ne m'écoutent pas, pardon. Il me regarde le haut, le bas, et me lance. « Vous pesez combien ?» Je lui réponds. Il me demande si j'ai pris du poids récemment. Je lui dis que oui, que j'ai changé de travail et de mode de vie. Et s'enchaînent ces 3 choses suivantes. « Où donc mangez-vous ? Vous mangez n'importe quoi. Vous grignotez sans arrêt. » il faut perdre du poids, je sais. Comme quand je parle donc de ma santé, je cherche pas à m'excuser, à me coucher donc sous ce joli palmier. Je cherche juste à me faire comprendre que mon poids, ce n'est pas ce que la nourriture, c'est aussi les médicaments. Après donc une pause où le mot AVC a su évoquer donc un intérêt en lui, 2 phrases tonitruantes tombent. Vous mangez mal, parce que votre conjoint, donc il est aussi costaud. Je prends encore un sur moi, je lui explique que nous faisons attention et que nous avons donc un tempérament à prendre facilement du poids. Et je me méfierai pas en rajoutant que c'est vrai en plus. Si je viens de le faire et nous mangeons des fruits, des légumes, et j'ai le droit au summum, un sourire. Mais pas un sourire, c'est bien madame, continuez ainsi, c'est un sourire comme ça qui me fait pas qu'à moi.
Puis, il conclut la séance en 3 coups, comme dans Pyramide. Va falloir voir une diététicienne. Votre carte vitale, 33€, s'il vous plaît. Oui, je suis grosse. Si l'on suit la médecine, je souffre même d'obésité. Dans le fond, je n'en souffre pas tant que ça. Ce sont les autres qui semblent plus en souffrir que moi. Effectivement, je souhaite perdre du poids. Pas pour mon couple qui va très bien. J'ai la chance d'avoir un homme qui m'aime comme je suis. Mais pour mon confort. Mais c'est mon choix, puisque c'est mon corps. Cher médecin, j'aurais pu m'effondrer collée à ma porte d'entrée après l'avoir refermée, une fois que tu es parti, et pleurer toutes les larmes de mon corps. Et tu t'imagines bien que vu mon poids, il y en a des larmes. Mais non, je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée d'envoyer un SMS à mon compagnon pour lui dire que j'ai été choquée que tu prennes seulement 5 minutes pour m'ausculter et 5 minutes pour encaisser tes foutus 33 euros. Mais surtout que pendant 10 minutes, toi qui es censé être à l'écoute et au service des patients, tu n'as fait que me rabaisser et ignorer le moindre mot que j'ai prononcé.
Tu as émis un jugement. Tu as émis le même jugement que la petite dizaine de personnes que je croise chaque jour dans le train, dans le tram, dans la rue ou au travail. Tu n'as pas été professionnel, tu as été dédaigneux, tu as été hautain, tu as été maladroit. Alors oui, ton métier est difficile, et je t'admire, crois-moi. Je n'ai même pas osé penser t'en vouloir pour le retard que tu avais. Mais penses-tu que tu es le seul à en avoir plein les bottes? Penses-tu que je préfère laisser mon gros derrière dans le canapé plutôt qu'aller au travail? Un jour, j'espère être enceinte, un jour. J'espère avoir un enfant. Je redoute déjà cette future grossesse, car je vois les regards réprobateurs de tes collègues qui pensent comme toi, figure-toi que je les connais déjà, qui pensent que l'on est gros par choix et que l'obésité n'existerait pas si les gens arrêtaient de bouffer McDo ou de boire des litres de Coca-Cola en regardant les ch'tis à Las Vegas. Pour moi et pour les autres, tâche de ne pas oublier qu'un jour, tu peux toi aussi avoir besoin d'aide. Et que ce dont tu as besoin est tout, sauf quelqu'un qui appuie sur ta tête pour l'enfoncer un peu plus. Sache qu'à ta manière, aujourd'hui, tu as été discriminant. Et puis entre nous, je n'ai même pas vu ton stéthoscope.
Il y a des paroles là-dessus. Ouais, des paroles, des vrais. C'est un saucisson de cheval. Un saucisson que de cheval que je viens de faire. À cheval, c'est une chanson de saillie. Ah, chanson de saillie de cheval. Moi qui suis esthète de cheval. Ah, je trouve ça beau de cheval. Génial, admirable. De la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce, de cheval, je m'appelle au reste. De cheval, t'as pas bouffé l'os. De cheval, je débarque à Paris. De veau, ho ho, quel régalo. De cheval, de prendre le métro. De cheval, quand on ne connaît pas. De cheval, oh, ce qu'on s'amuse. De bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours. Mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons. De cheval, quand ils pleurent en cœur, de cheval, j'essaie de les distraire. Les vaches, je viens à boudin, boudin de cheval, mais les autres aussi sont. De cheval, toujours dans le besoin, de cheval, ça ne peut pas être pis. De chèvre, non, l'enfant c'est. Quel est cet aztèque de cheval qu'on vient de voir filer? De cheval du haut de la côte, de cheval dans le précipice, en moto peut-être bien estomac, de cheval qui vient de me ventre, de cheval un complet à garrot, de cheval et un gilet pied de poule. Allez, maintenant je suis vu comme ça, maintenant je vais m'asseoir, j'en ai marre, je vais m'asseoir. Je désirais m'asseoir de cheval et tu m'as menazo. De cheval, canapé en rotin. De cheval, et mon cœur vous fumiez. Mes cigares, n'étais-je pas l'affronier? De cheval qui fourbu sa fesse. De cheval, ça fait rire les groupes. De cheval, ah, comme l'écurie. Et gay. Albo saucisson. De cheval, ah, chanson de saillie. De cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, car je suis esthète. De quoi? Esthète de quoi? Esthète de cheval.
Nous venons de déguster le saucisson de cheval de Bobby Lapointe.
Je ne suis pas gros. J'ai compris. Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la tête.
Et maintenant, un extrait de « Gros n'est pas un gros mot » de Daria Marx et Eva Pérez-Bello. L'article 225.1 du code pénal stipule que constitue une discrimination d'où toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur apparence physique. Sans oublier la loi de 2001 sur la discrimination professionnelle qui s'applique aux obèses et le rapport établi à l'occasion de la 9e édition du baromètre du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail sur la perception des discriminations dans l'emploi intitulé « Le physique de l'emploi ». La lutte contre la grossophobie nous concerne tous. Si les personnes grosses apprennent dès leur plus jeune âge à ne pas prendre de place, les discriminations grossophobes se chargent de leur rappeler le volume qu'elles occupent. Un des premiers pas de la lutte anti-grossophobie est donc de rendre aux personnes grosses leur espace et la légitimité à l'occuper. Leur apprendre, en leur donnant la parole, qu'elles sont victimes de discrimination et que peu importe la raison pour laquelle elles sont grosses, elles ont le droit de revendiquer une égalité des chances et une paix de l'esprit. Auprès des non-concernés, il s'agit de déconstruire les idées reçues liées à l'obésité pour que l'espace public et le lien social ne soient plus un calvaire entravant pour un certain nombre de personnes en situation d'obésité. Enfin, les pouvoirs publics et les institutions doivent entendre qu'ils ont un rôle à jouer. Santé publique, urbanisme, accès aux soins, à l'emploi, à la formation, égalité d'éducation. Il convient de prendre des mesures et de mettre en œuvre les politiques nécessaires, à la fois pour endiguer l'épidémie et pour assurer à ceux qui en sont victimes les mêmes droits qu'à tous. Il ne s'agit ni d'une leçon de morale ou d'éthique, ni de rentrer dans une analyse scientifique ou sociologique profonde du sujet, ni même encore de glorifier l'obésité. Ce dernier point est important. La lutte contre la grossophobie n'est pas la promotion de l'obésité. N'essayez pas d'être gros. Vraiment, c'est pas terrible. Il n'y a qu'un gros pour supporter le harcèlement ordinaire. Les minces sont trop fragiles. L'objectif de ces pages est bien plutôt de donner envie au plus grand nombre de combattre leurs préjugés pour cheminer demain vers une meilleure acceptation des gros au sein d'une société qui aujourd'hui les silencie et les ostracise et de ce fait les condamne.
Et bien maintenant, la minute du pôle intitulée « Ma vie en gros », comme l'émission. 36, 38, même 40. Soyons clairs, il y a 100 fois plus de chances que je vous parle de mon âge que de ma taille de pantalon. En parlant pantalon, c'est sans doute dans les magasins de vêtements que commencent les premiers ennuis quand vous êtes gros. En effet, même si les mœurs tendent à évoluer, pour l'instant, les mannequins de vitrine sont plus proches de l'anorexie que de l'obésité. C'est un fait. Alors ça fait quoi au quotidien d'être gros en France ? Allez, quelques pistes. Tu rentres dans une boutique de fringues parce que t'as vu une tenue sympa en vitrine. En fait, parfois, tu n'as même pas le temps de chercher ta taille que la vendeuse, à l'aise dans son 38, te dit « Excusez-moi, mais ici, on ne fait pas de grande taille. » Ok, sympa, merci. En fait, non, tu réponds rien parce que t'es tellement vexé que tu ressors en priant pour que les nanas bien foutues n'aient rien entendu. Le seul endroit où ton poids ne fait pas problème, c'est au rayon foulard et chaussettes. Pas celui des bas, hein, j'ai bien dit les chaussettes. Au rayon chaussures, tu te dis c'est bon, un endroit où ma dignité ne sera pas mise en péril. Raté. Clairement, quand t'es gros, tu l'aides partout, quand tout va bien. Alors, bah, les talons hauts, t'oublies. Et si tu n'oublies pas, bah, gare aux entorses. Et les bottes, tu sais les jolies bottes d'hiver qui font une silhouette si élégante à tant de femmes. Toi aussi, ça te fait une belle jambe. Sauf que tu peux pas fermer la fermeture éclair. Donc les bottes, bah, elles restent au magasin avec ton amour propre. Sortie de la mode, toute personne enrobée s'est déjà mangé des réflexions sympas par tout un tas de personnes sympas, elles aussi. Le must pour moi restera « Oh, c'est quand même dommage, tu as un si beau visage !» Là aussi, tu as envie de t'excuser, de ne pas être qu'une tête. Tu comprends vite que l'amputation du corps, ça fonctionne pas. Bon, bah tu fais avec. Tu encaisses la douleur à chacune de ces charmantes remarques et tu continues à arborer un joli sourire sur ton si beau visage et le corps, bah tu le caches. Enfin, tu essayes. Viennent ensuite les bien-pensants. Ceux qui détiennent la solution à tes problèmes, j'ai nommé les spécialistes du régime. Ceux qui ont réussi à perdre facilement 3 kilos, alors que toi, tu sais que tu aurais besoin d'en perdre 10 fois plus. Ceux-là, tu as envie de leur dire « Bah non, j'ai jamais fait de régime. Bah non, en fait, tu sais pas, j'aime le gras. J'adore mes bourrelets et ma cellulite. J'ai même décidé de continuer à grossir pour me sentir mieux encore. » Tu as envie, mais tu ne leur dis pas. Tu te justifies. Tu utilises tes enfants pour les 10 derniers kilos emmagasinés. Mais pour les 20 d'avant, bah, tu sèches un peu. Et les docteurs, on en parle? En fait, quand tu consultes et que tu es gros, eh ben tu te rends compte que 90% des médecins ramènent le moindre problème à ton poids. Attention, j'ai bien compris en quoi mon surpoids est responsable de mon souci de tension et de cholestérol. Par contre, le rapport avec mes allergies cutanées, bah, je le cherche encore. Adoucissons ce propos par le fait qu'il existe aussi des médecins bienveillants qui, plutôt que de juger, cherchent à aider et susciter l'envie de changement. Quand tu as réussi à survivre à tous ces désagréments et que tu rencontres l'amour, et que l'amour souhaite t'épouser, tu le fais expertiser quand même, histoire d'être sûr qu'il ne fait pas une bouffée déliante. Hein. Quand tu es rassuré sur son état de santé, comme toutes les femmes du monde, tu te fais une joie de vivre le grand moment qui est censé être le choix de ta robe de mariée. Mais très vite, ça se gâte quand on t'annonce avec un sourire de circonstance qu'en raison de tes mensurations, tu devras t'acquitter d'un supplément de 10%. Sur une robe à 1000 euros, je vous laisse calculer. Une nouvelle fois, tu encaisses. Alors, t'as envie de leur demander « Est-ce que les maigres, elles ont droit à une réduction ?» Bref, on va s'arrêter pour les exemples. Je pense que vous avez compris l'esprit. Cette histoire, c'est peut-être la mienne, peut-être pas. Mais c'est sans doute celle de tous les gros que vous croisez chaque jour dans la rue, au travail ou dans votre entourage. Alors, population à l'IMC dans la norme, qui parfois se moque et juge, je vous en conjure, posez-vous cette question. Quelles souffrances, quelles épreuves se dissimulent derrière ces kilos? Parce que ce sont vos regards et vos jugements qui rendent la vie des gros encore plus dure. Essayez de mesurer l'impact de vos attitudes. On ne s'excuse pas d'être de corpulence normale, on ne s'excuse pas d'être maigre, on ne s'excuse pas de se sentir supérieur. Alors pourquoi s'excuser d'être gros? Mon propos ne se veut pas moralisateur, personne n'est parfait, même pas moi. Je pense toutefois que si chacun acceptait l'autre avec et dans sa différence, il n'y aurait pas d'émission de radio intitulée « La vie en gros », mais peut-être pourrions-nous écrire tous ensemble « La vie en rose ». Bonne journée !
Avant de laisser la conclusion de cette émission à Didier, un peu d'amour, ça fait jamais de mal.
Big bisou, big bisou. Approchez, approchez, on va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Passé. Croyez-vous au big bisou. Et d'abord, sur la main. Style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop! Big bisou, big bisou. Juste après, de plus près, sous la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. C'est quelquefois marrant. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, on s'en fout. Plus hardi, le bibi dans le cou. Attention, dans le cou. Embrassez-vous.
C'était notre ami Carlos, Big Bisou. Pour conclure donc sur cette émission, tout en douceur et en rondeur, nous espérons être parvenus à faire évoluer quelques regards sur les personnes grosses d'ailleurs. Ce mot mériterait d'être banni du langage courant. Qu'il le veuille ou non, il porte avec lui donc une connotation toujours péjorative. Effaçons-nous d'abord un regard plus bienveillant sur les personnes rondes, dodues, potelées ou encore qui dépassent la mesure ordinaire. Nous n'oublions pas que derrière chaque kilo se trouve une personne, des joies, des souffrances, une vie, une histoire, mais aussi donc un potentiel d'intelligence, d'amour et de pouvoir. Une enveloppe corporelle ou non ne sera toujours qu'une enveloppe si on prend le temps de l'ouvrir pour révéler les grands trésors remercions l'équipe de Patrick Actif pour sa jovialité et sa bienveillance légendaire. Rendez-vous le 27 février sur la même longueur pour notre prochaine émission.